chers amis, bonjour.
Nous sommes au nord de Bourges, à Mentoussalon, village rural et viticole qui rayonne grâce à son vignoble, donc puisque c'est un village viticole, qui rayonne aussi grâce à son château. Les princes d'Arembert, propriétaires du château, étaient des amateurs et collectionneurs de voitures. Pierre d'Arembert a même fondé l'Automobile Club du Centre en 1905. Et génération après génération, la famille a étendu, enrichi sa collection de voitures qu'on peut voir dans le musée automobile et hippomobile du château. Vous pourrez en particulier y admirer une Hispano-Suiza de 1923, une Delahaye de 1931 pour les amateurs ou une Rolls-Royce de 1937. La famille est aussi passionnée de chasse et d'équitation, donc on peut visiter la sellerie. Mentoussalon, village viticole AOC, appellation d'origine contrôlée pour des... contrôlé, c'est ça, oui, ou AOP aussi, on le dit de nos jours, pour des vins rouges, essentiellement du blanc, mais aussi du rouge et du rosé. Village très animé, grâce notamment à Mentoussalon, en fait, qui organise différents rendez-vous toute l'année et qui gère aussi une brocante solidaire dans deux granges de la brocante, des objets de récupération qui ont ainsi une nouvelle vie dans l'idée de la recyclerie. C'est ouvert tous les samedis après-midi et les bénéfices vont à des associations humanitaires, Mentoussalon en fait, mais aussi une autre association qui anime le village, l'association Le Carrois, qui organise en particulier fin juin, pendant deux jours, un festival, alors festival à la rue, autrement dit le festival des arts et des spectacles de rue dans le village. Et en pleine période de vacances hivernales, notre jeu continue de tourner en France et de vous accompagner à la mi-journée chez vous. Nous saluons nos concurrents de ce jeudi, Jacques Le Marchand et Emmanuel Joseph. Bonjour Jacques.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez La Borne, on en parlera sans doute demain d'ailleurs, de ce village qui est un village de potiers, un village de céramistes, La Borne. Mais vous, votre activité Jacques, ce n'est pas la poterie ni la céramique, c'est l'ébénisterie, vous êtes en pleine reconversion.
Voilà, j'étais formateur à Paris, revenant tous les week-ends et en vacances à La Borne où ma femme réside et travaille. Et entre-temps, je me suis formé à l'annexe de l'école Boulle, au lycée Faidherbe, pour passer un CAP et une mention complémentaire. Et j'ai mon atelier à Richemont que je vais rouvrir. Donc j'invite Chemin d'Ego à Richemont, Jacques Marchand et Ébénisterie.
Eh bien, pour la pub, bravo.
Qui va se relancer au printemps avec les beaux jours.
Et ça ne saurait tarder, mais bravo pour cette belle reconversion. Vous allez fabriquer des meubles, des petits objets.
Des conceptions essentiellement de meubles contemporains, table basse, table, console.
Et vous allez travailler en vente directe ou vous allez travailler peut-être?
Alors,
avec
je sais pas trop encore. Oui. Là c'est
vous concentrez sur votre art.
Voilà. Petit à petit.
L'aspect commercial, on verra plus tard. Absolument. Bravo Jacques. Merci d'être avec nous, avec Emmanuel Joseph. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Nicolas.
Alors vous habitez non pas Mentoussalon, mais une ville qui s'appelle Marseille.
Marseille, oui,
ça,
tout
oui,
à fait. Là.
Marseille, c'est loin d'ici. Non, je plaisante, vous êtes Marseillais et vous êtes à Mentoussalon oui. Pour voir de la famille, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà, je viens voir mes parents assez régulièrement qui habitent à Mentoussalon. Ça me permet de me ressourcer un peu à la campagne, oui. Profiter de leur présence.
Bien sûr.
Et ça me permet de quitter un peu la ville.
Oui. Et la mer ne vous manque pas quand vous venez à Mentoussalon, non?
Si, un petit peu, oui.
Oui, parce que vous faites du surf, je crois.
Oui, alors quand j'ai le temps, je fais du surf.
Mais à Mentoussalon, c'est pas facile, mais à Marseille.
À Marseille, on peut en faire.
Bien sûr.
Bien sûr. Mais sinon, j'allais assez régulièrement au Portugal ou. Ou au Maroc pour pratiquer le surf.
Emmanuel, quel est votre métier sinon?
Je suis statisticien.
Oui, vous travaillez pour une entreprise, une institution publique?
Une institution publique, oui.
Publique, d'accord.
Ouais.
Qui est l'INSEE ou pas du tout?
Oui, ça se rapproche de l'INSEE.
Ça ouais. Se rapproche de l'INSEE qui est en l'occurrence basé à Marseille.
Oui, hein, tout à fait.
Concernant ouais. Votre activité à vous. Et vous jouez de la guitare aussi, Emmanuel?
Je fais de la guitare, oui, quand j'ai le temps.
Quand vous avez le temps, parce que vous avez des occupations nombreuses, on l'a bien compris. Jacques Le Marchand, Emmanuel Joseph, les questions du jeu. Question bleue, les plus faciles, peut-être. Oui, c'est Anne Begel qui habite Saint-Sorlin en Valoire dans la Drôme qui vous demande le nom d'un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964 et qui a été supprimé, on peut le dire, ou qui a éclaté, comme on dit, en 74, qui a eu pour mission la tutelle de la radiodiffusion et de la télévision publique en France, la gestion des émetteurs également et la production audiovisuelle. Tout était regroupé dans une entreprise, enfin... un établissement public, quel était son nom?
L'ORTF.
C'était l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, l'ORTF, jusqu'en 1974. Et notre maison, Radio France, et issu de l'ORTF. Deuxième question bleue d'Olivier Dourlin, à Outreau dans le Pas-de-Calais. Dans quel musée peut-on voir la pierre de Rosette?
C'est le Louvre. C'est au Louvre, je crois.
Le Louvre?
Ce n'est pas au Louvre qu'est exposée la fameuse pierre de Rosette.
British Museum, peut-être?
Proposé.
British Museum.
Mais oui, et qui se trouve dans quelle ville?
Bah Londres.
Bah Londres, oui, c'est ça, encore faut-il le dire, le British Museum, exposé à Londres. La pierre de Rosette qui a permis à Champollion de décrypter les hiéroglyphes. Question bleue également, d'Omer Arnal à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse. Chez l'homme, comment appelle-t-on la pièce osseuse formée par la soudure des 5 vertèbres sacrées du bassin? Oui. Comment appelle-t-on la pièce osseuse formée par la soudure des 5 vertèbres sacrées du bassin?
Sacrum, je sais pas. C'est sacrum?
Mais oui, c'est le sacrum, tout simplement, oui, les vertèbres sacrées et le sacrum. Maintenant, des questions blanches, peut-être un peu plus difficiles. C'est selon, puisqu'évidemment, en fonction de ses connaissances personnelles, on trouve certaines questions plus faciles que d'autres, et réciproquement. Quoi qu'il en soit, cette question nous vient de Stockholm. C'est Marion Grange qui nous l'a envoyée depuis la Suède, où elle habite. En français, le H au début des mots peut être aspiré ou muet. Et notre auditrice vous demande de citer deux noms communs commençant par un H muet et deux noms communs commençant par un H aspiré. Alors, il faut quatre réponses. Donc, alors commençons peut-être par les noms avec un H muet, disons.
Une hache.
Une hache, d'accord. Une autre. Non, pas une hache d'ailleurs. Non, non, pas une hache. Non, 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 non. Donc hache muet. On dit pas les haches, mais on dit
un homme.
Oui, on dit les hommes. D'accord. Donc ça, c'est hache muet. Oui. Avec une liaison. Commençant par hache.
Les.
Alors, question reposée tout à l'heure. Il faudra quatre réponses. Enfin, plus que trois. Il faut deux exemples de substantifs dont le H est dit H muet. Donc, on peut faire la liaison. Et deux exemples de substantifs commençant par un H aspiré. Donc, sans liaison autorisée. Je vous pose l'autre question blanche d'aujourd'hui. D'Hugo Mathieu à Bordeaux. Qu'est-ce qu'une fourmi panda? Eh oui. Alors, ce n'est pas vraiment une fourmi. Comme vous pouvez vous en douter, cet animal, car c'en est un quand même, vit uniquement dans les forêts du Chili. Proposer des types d'insectes peut-être.
Oui, c'est ça. Pas trop dit, t'es fourmi panda.
Qu'est-ce que ça peut être alors? Cet animal a un corps blanc et noir, d'où son nom. On l'appelle la fourmi panda, mais ce n'est pas une fourmi. C'est un insecte qui vit uniquement dans une forêt du Chili, dans la région de Coquimbo, précisément. Mais ça ne va pas vous aider davantage, je pense. Question rouge de Nils Botto à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Question envoyée sur franceinter.fr. Que désigne le terme pétrichor? Qu'est-ce que le pétrichor? Terme créé en 64 par deux chercheurs.
C'est lié au pétrole?
Ce n'est pas lié au pétrole. C'est bien particulier et on peut connaître, on peut ressentir le pétrichor, y compris dans le Berry. Origine grecque.
C'est lié à la pierre?
À la pierre, et oui, parce que pétros, ça veut bien dire pierre, en effet. Mais le terme pétrichor désigne quelque chose de bien particulier que l'on ressent. On comprendra de quoi il s'agit tout à l'heure dans la deuxième partie du jeu, puisque deuxième partie, il y a Jacques Lemarchand et Emmanuel Joseph. Je vous repose d'abord cette question blanche envoyée sur franceinter.fr par Marion Grange à Stockholm, en Suède. En français, le H en début de mot peut être aspiré ou muet. Marion vous demande deux exemples de noms communs commençant par un H muet, donc mot avec lequel on peut faire la liaison, et ensuite deux substantifs avec un H aspiré sans liaison. Vous avez dit, pour illustrer tout à l'heure, les mots commençant par un H muet, vous nous avez proposé le mot homme. Les hommes, d'accord, c'est un H muet. Un autre exemple de...
Les hindous.
Avec un H, absolument, au début, bravo.
Et ensuite, deux exemples de mots dont le H est aspiré, donc sans liaison.
Une hache.
Une hache, oui, c'est ça, maintenant ça marche dans ce sens-là.
Une hampe.
Une hampe, on ne dit pas des hampes, en effet, oui, c'est ça. Bravo pour cette réponse. J'enchaîne avec l'autre question blanche envoyée par Hugo Mathieu à Bordeaux. Il faut nous dire, mais là, une seule réponse est possible en 15 secondes. Une seule réponse est autorisée, en tous les cas, en 15 secondes maximum. Qu'est-ce qu'une fourmi panda ? C'est un animal qui a un corps blanc et noir, qu'on trouve au Chili. Faut le savoir, remarquez.
C'est une fourmi, tu veux dire ?
On l'appelle la fourmi panda, mais ce n'est pas une fourmi.
C'est une araignée ?
Non, c'est un genre de guêpe. Oui, voilà. Oui. Mais on ne peut pas le deviner, enfin, sauf à proposer plein de réponses dans la première partie du jeu. Mais c'est une espèce de guêpe qui fait partie d'ailleurs de l'ordre des hyménoptères. On peut faire la liaison, hein, les hyménoptères. Et c'est un genre de guêpe qu'on trouve uniquement dans une forêt du Chili, corps blanc et noir, d'où son nom. Question qui rapporte à Hugo Mathieu à Bordeaux, 30 euros. La question rouge d'aujourd'hui de Niels Botto à Arcueil dans le Val-de-Marne. Que désigne le terme pétrichor ?
Quelque chose qui est lié, qui a un rapport aux carrières de pierre ? Aux gisements de pierre ?
Pas vraiment. En fait, c'est l'odeur particulière que dégage la terre après la pluie. Le pétrichor. On voit bien de quoi il s'agit, hein, cette odeur si spéciale, en particulier quand il n'a pas plu depuis un moment. Et lorsqu'il pleut, il y a cette odeur particulière qui se dégage du sol après la pluie. On appelle ça le pétrichor, terme créé en 64 par deux chercheurs de Petros Pierre et de Ichor, sang de dieu en mythologie grecque. Niels Botto à Arcueil dans le Val-de-Marne recevra pour cette question rouge 45 euros. Jacques Lemarchand, Emmanuel Joseph, pour vous, on s'arrête là, 75 euros. Le supplément Libération sur l'intelligence artificielle au cœur de l'humain et le livre de Mathieu Vidard, Dernière nouvelle de la science, coédité par France Inter et Grasset. Merci de nous suivre et à demain, si vous le voulez bien.
Et je vous invite, si vous le souhaitez, participer à l'enregistrement de 18h30 du jeu à Lançon de Provence, à l'espace Marcel Pagnol dans les Bouches-du-Rhône.